Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Ce qui est particulier au Québec, c'est que pendant longtemps, on a fait une histoire qui se désengageait du reste du monde. Et donc, quand on parle de l'histoire afro-québécoise, quand on parle de l'histoire noire, c'est comme si le Québec avait été en silo du reste du monde. Quand on nous enseigne déjà la Nouvelle-France ou le régime britannique, on ne parle pas d'esclavage. Et on ne parle pas de comment l'esclavage était lié au reste du monde, au reste des Amériques, à l'Afrique, à l'Europe. Et donc, c'est comme si le Québec avait été en vase clos. Mais pourtant, il y avait des esclaves autochtones ici, il y avait des esclaves noirs. Et ces esclaves noirs, ces personnes asservies, venaient de quelque part. Mais nos historiens généralistes du point de vue de l'histoire du Québec ont complètement occulté cette partie-là. Je dis occulté, mais ça tient aussi de l'oubli.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, qui se tient chaque année en février en France, mais surtout au Canada, on continue de feuilleter le grand livre de l'histoire du Québec à la découverte d'un chapitre oublié et pourtant central de ce livre, peuplé d'autochtones Mi'kmaq ou Anishinaabe, de colons britanniques ou de Canadiens français, coureurs des bois, patriotes ou filles du roi. Ce chapitre, le rapport et conférencier Webster vient de le nommer. Il concerne l'histoire noire de la belle province. Mais des hommes et des femmes se sont mis en marche pour lui donner toute sa place à cette histoire. On l'a vu la semaine dernière. Webster, lui, s'est d'abord mis en marche dans la ville de Québec, où il a grandi, initiant dès 2016 des visites sur les traces de l'histoire noire là-bas. Depuis, il a multiplié les projets, le dernier en date étant la traduction en français qu'il a lui-même menée du livre phare du philosophe américain Charles W. Mills, Le contrat racial. Webster, de son vrai nom, Aline Diaye, est né d'un père sénégalais et d'une mère québécoise. Et aujourd'hui, il est devenu une voix qui compte, qu'il faut savoir écouter. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec lui dans un entretien au long cours afin d'approfondir, de creuser le sillon que l'on a suivi en voyage la semaine passée à Montréal.
Ici, on a commencé par nier cette histoire-là de l'esclavage au 19e siècle. Celui qu'on appelle le père des sciences historiques au Québec, François-Xavier Garneau, dans sa première édition de l'Histoire du Canada, dit « Nos ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. » Garneau écrit ça une quarantaine d'années après la disparition de l'esclavage ici. Donc, l'esclavage commence à disparaître au début des années 1800 au Québec. Et la génération de Garneau est une génération qui n'ont pas eu de personnes asservies, mais dont les parents en avaient. Les gens avaient quand même le souvenir de l'esclavage. Ça sera reproché à Garneau. Cette omission sera reprochée. Ce qui fait que à partir de sa deuxième édition, il écrit en tout cas, il y avait des esclaves, mais vraiment pas beaucoup. Point. Tourne la page. Et donc, on a commencé par une négation, et de fil en aiguille, dans notre manière de faire l'histoire, eh bien, on a juste évacué cette dimension-là. Et on pense à l'historien Benjamin Sult dans les années 1880 qui dit « Nous avons ici des Canadiens français qui n'ont marié que des Canadiennes françaises ». L'historien Lionel Groulx dans les années 20 dit « Nous avons ici un peuple canadien français avec aucune mixité avec l'élément indigène ». Donc cette notion de pureté raciale sera une des lentilles à travers laquelle on va analyser notre histoire. Donc toute l'histoire, soit de l'esclavage, soit de l'afro-québécité ou de l'afro-canadienité sera complètement évacuée. Et pour la question de l'esclavage, il y a aussi le fait de la conquête britannique qui a positionné les Canadiens français comme les victimes de l'oppression britannique, de l'oppression anglaise. Et donc, toute autre forme d'oppression qui concerne l'esclavage, qui concerne les Autochtones, ont été évacuées de nos récits nationaux pour se concentrer sur la dimension linguistique. Et donc, cette dimension linguistique a occulté tout le reste des autres enjeux. Et c'est comme ça, finalement, qu'on passe d'une négation au néant, d'une négation à l'oubli.
Et alors comment on fait justement pour peut-être pas réparer cet oubli, mais pour au contraire lever le voile sur ce qu'on a nié depuis si longtemps?
Mais on plonge. On plonge. Parce que, heureusement, les archives existent. Il y a des traces ici et là. Et ce qui est particulier, c'est que on a des myriades d'historiennes et d'historiens qui ont épluché les archives, mais sans même jamais voir ces traces-là. Donc, les traces sont là devant les yeux, mais les gens ne les voient pas. Charles Mills parle d'une épistémologie de l'ignorance. Comment est-ce que on masque la réalité? Comment on construit une réalité qui nous convient finalement?
Une fiction, en fait.
Oui, exactement, une fiction. Ce qui fait qu'on va voir des traces et l'œil blanc n'arrivera pas à comprendre ou voir ces traces-là. Mills parle aussi de l'ignorance blanche. Mais il y a des gens qui ont réussi à voir ces traces-là, qui ont écrit à ce sujet. Je pense à Marcel Trudel, qui, dans les années 1950, a commencé à compiler le nom des personnes asservies ici, le nom des personnes qui les asservissaient aussi. En 1960, a publié « Deux siècles d'esclavage au Canada français ».
Où il a identifié à peu près, dans une période assez précise, 4000 et plus personnes réduites en esclavage, dont les deux tiers étaient des autochtones.
Exact. Donc, Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies dans notre histoire au Québec, environ 2629 au début des années 1800. Sur ce nombre-là, les deux tiers sont des autochtones et le tiers est africain ou afro-descendant. Toutefois, Marcel Trudel compile ces chiffres-là dans les années 1950, avec les moyens technologiques de l'époque, qui sont un crayon et un papier. Et il est seul à faire ce travail. Ses notes vont brûler. Il doit recommencer. Et donc, ce chiffre nous sert plutôt de marqueur plus que d'un chiffre statistique précis. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de réviser ces chiffres-là. Et que pour la portion autochtone, c'est une historienne ici à Montréal qui me disait qu'elle est rendue pratiquement au triple. Et Marcel Trudel aussi, dans les années 50-60, construit cette œuvre-là avec ses billets, bien sûr. Donc lui, il va parler d'un esclavage bienveillant.
Tranquille.
Un esclavage tranquille, comme on dit, l'esclavage « light ». Entre guillemets, donc on va dire, ah, ce sont des gens qu'on adopte, des gens qui font partie de la maisonnée. Et donc, Trudel, qui est un pionnier, qui va faire un travail important, contribue à la banalisation de l'esclavage ici. Un récit qui est encore porté par bien des historiennes, des historiens. Quand on parle d'esclavage, on tente beaucoup de banaliser, toujours pour se donner bonne conscience. Et notre proximité avec les États-Unis fait que c'est facile de se dire non, c'était pas l'esclavage de plantation, donc ça allait, c'est un esclavage domestique. Mais on ne parle jamais des violences sexuelles, des violences physiques. On ne parle jamais de la violence psychologique, d'être une personne asservie, de vendre les gens, d'être traité comme des objets, de défaire les familles. Et le fait d'habiter dans la maison 24 heures sur 24 avec ses propriétaires, entre guillemets, hein, parce que bon, la propriété est une construction, donc c'est des gens qui prétendent à la propriété. Et donc, cette violence psychologique d'être 24 heures sous 24 sous l'œil de l'oppresseur. Quand on pense, admettons, à l'esclavage de plantation, je suis pas en train de dire que l'esclavage de plantation était plus facile, mais il y a un moment dans la journée où les gens se retirent vers le quartier qu'on appelle le quartier des esclaves, donc le lieu dans la plantation où les gens sont ensemble. Il y a un esprit de communauté qui se forme, donc on peut manger ensemble, on peut souffrir ensemble, on peut se guérir ensemble, on peut se soigner ensemble, on peut chanter ensemble, on peut créer une culture propre aux gens qui sont dans le même lieu. Mais ici, étant 24 heures sur 24 dans la maison des dits propriétaires, eh bien, c'est plus difficile d'avoir cet esprit de communauté avec les autres personnes asservies. Toutefois, on va quand même retrouver des liens entre les gens. On va quand même retrouver cet esprit de communauté, mais qui s'articule de manière beaucoup plus subtile que dans l'esclavage de plantation. Et donc, des gens comme Marcel Trudel ont banalisé l'esclavage ici sans nécessairement connaître l'histoire de l'esclavage dans son ensemble, donc ses ramifications transatlantiques. Notre manière de lire l'esclavage ici est faussée. Mais on doit partir de ce qui a été compilé, on doit partir des informations qui nous ont été mises sur la table, entre autres par Marcel Trudel et d'autres qui ont suivi aussi. Je pense à Paul Femu Brown, je pense à Frank Mackey, je pense à Dorothy Williams, je pense à des gens qui se sont penchés sur cette histoire-là et qui nous ont permis d'avoir un portrait un peu plus précis. Toutefois, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre ces connaissances-là, qui sont encore très nichées, et la population en général. Il y a cette espèce de fossé, pour ne pas dire un canyon, entre les livres qui existent, qui sont souvent des livres assez épais d'histoire, versus la population qui n'a pas nécessairement envie de lire ces livres-là. Donc, tant que la population n'arrive pas à entrer en contact avec cette histoire-là, il y aura cette vision biaisée, cette vision faussée de notre récit narratif qu'on considère comme étant homogène. Et donc, c'est le travail que j'essaie de faire le lien entre les bouquins et la population.
Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoilez des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer, pour vous dire comment c'est. D'abord faut nuancer, l'histoire est romancée. Manipulée, elle est écrite par les vainqueurs. Dans une partie dissimulée, les hypocrites d'être podiens. Back in the days, tour de 1604. Champlain débarque avec un support en plaque. Mathieu Dacosta dit l'interprète. Il parle micmac, français et hollandais. En 1629 arrive Olivier le Jeune. Premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec. Au moins 10 000 esclaves au Canada. Jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833. Et c'est fou, à force de furte et en match découvert que Lionel Gros prenait la pureté des races. C'est la même pour Garneau, FX Garneau. Québec History X nous ont fait du tableau. Mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noires. On était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois. Mais aussi des aubergistes. Et ils veulent nous faire croire que les noirs sont ici depuis les années 70. 1779, point du sable Jean-Baptiste. Médecin Thillière fondé un poste de traite en Illinois. Nowadays, on l'appelle Chicago. Black francophone à fond des Chicago. Jackie Robinson, Oliver Jones. C'est Oscar Peterson. La liste est longue, mais pas tant que ça. Trop verrouillé qu'on contribue à notre passé. Mais peu peut le souligner.
400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et de se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir. Quand on y pense, 10 minutes, l'ignorance diminue. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire oublier de croire et de se souvenir. C'est tout ce que j'ai peur de devenir. Quand on y pense, 10 minutes, l'ignorance diminue.
I'm not controversial, I'm just speaking the facts. I speak with your weak mind lacks. I'm not controversial, I'm just speaking the facts. Wake you up out of your brainwashed state.
Depuis tout jeune, j'étais intéressé par l'histoire. Et dès l'adolescence, je me suis intéressé à l'histoire afro-états-unienne. Donc les Malcolm X, les Martin Luther King, les Black Panthers, Rosa Parks. Donc toute cette histoire-là m'a fasciné dès... je devais avoir peut-être 11-12 ans. Et donc j'ai beaucoup lu à propos de cette histoire-là. Et étant intéressé par l'histoire en général, j'ai décidé d'étudier dans ce domaine-là. À l'université, et jamais qu'on m'a soufflé mot de l'esclavage ici, jamais qu'on m'a parlé de l'histoire noire ici au Québec, que ce soit à l'époque de la Nouvelle-France, à l'époque du régime britannique, ou même à l'époque moderne, jamais qu'on m'a parlé. Donc c'était une histoire qui était très, très homogène. Et c'est en sortant de l'université que je suis tombé sur des bribes d'histoire afro-québécoise. Mais très peu. Et étant intéressé par l'histoire afro-états-unienne, je me disais, mais attendez un instant, il y a une histoire noire ici aussi. Et c'est comme ça que je commençais à m'y intéresser et j'ai voulu pallier à cette occultation-là en parlant moi-même. Et donc, en faisant mes différents projets, je me suis dit, si personne ne le fait, moi, je vais le faire.
Et donc, tout ça dans l'espace public a commencé par Québec, où tu vis, où tu as grandi, en initiant des visites guidées pour rappeler, même pas rappeler, plutôt faire exister cette histoire de l'esclavage et plus largement l'histoire des communautés afrodescendantes à Québec. Et puis, un peu partout dans les médias, tu es conférencier, artiste aussi, hip-hop, donc ça passe par la musique. C'est important, l'espace public, justement.
L'espace public est important parce que c'est là que les gens se trouvent. Et c'est là qu'on peut entrer en communication. Bien sûr, bon, il y a les médias, il y a Internet, tout ça, mais l'espace public n'est pas négligeable. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, pour moi, je me suis senti un peu obligé de transmettre cette histoire-là. Et à l'époque, mon seul moyen de communication que je possédais, c'était le rap. Donc, j'ai d'abord commencé par rapper à propos de cette histoire-là. Et de fil en aiguille, j'essaie de trouver d'autres moyens de toucher les gens. Et donc, les chansons sont devenues des conférences. Les conférences sont devenues des visites guidées. J'ai créé des expositions dans les musées, des podcasts aussi, des livres pour enfants. Et un autre élément dans l'espace public qui, pour moi, je trouve important, c'est la commémoration. Il y a quelques années, j'ai fait reconnaître Olivier Lejeune, qui est la première personne à servir ici en contexte colonial, le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada, qui est arrivé à Québec en 1629 et qui recevra le nom d'Olivier Lejeune. Il faut toujours se rappeler que c'est pas le nom que sa maman lui a donné, que ce soit à Madagascar ou en Afrique de l'Ouest, les sources divergent à ce sujet. Mais toujours est-il que Olivier Lejeune n'était pas reconnu comme personnage d'importance historique. Et donc, je l'ai fait reconnaître comme tel il y a quelques années. Et en 2021, la ville de Québec a posé une plaque commémorative sur son lieu d'habitation. C'est la première plaque commémorative pour une personne africaine ou afro-descendante dans la ville de Québec. Et cette plaque permet d'ancrer dans l'espace public ce récit-là. Ce qui fait que j'ai plus besoin d'être là. Les gens peuvent se balader, arrêter, lire la plaque, continuer et apprendre. Donc, ils n'ont pas besoin de faire ma visite guidée. Ils n'ont pas besoin de venir dans mes conférences. Ils n'ont pas besoin, je parle de moi ou de mes collègues comme Rito Joseph, comme bien d'autres personnes. Et donc, le fait qu'il y ait quelque chose d'ancré à même le sol qui ne bouge pas, c'est littéralement gravé dans la pierre, ou du moins une plaque de bronze vissée dans la pierre, eh bien, ça permet de laisser l'information là. Et c'est ça que j'adore. Des fois, je passe à proximité de la plaque et je vois les gens qui viennent, lisent, continuent leur chemin. À chaque fois, ça me fait tellement plaisir parce que pour moi, c'est signe que ça fonctionne et que l'aspect commémoratif dans l'espace public n'est pas négligeable comme moyen d'interprétation et comme moyen de construction d'un récit national différent.
Alors pour continuer sur la question de la commémoration, je crois savoir que toi tu as été nommé membre de la commission des lieux historiques.
Ouais, la commission des lieux et monuments historiques du Canada.
C'est ça, représentant la province du Québec.
Ouais.
Donc c'est quand même important, ça témoigne peut-être d'une évolution, cette nomination te concernant, vu ce que tu défends.
Ma nomination au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, pour moi, effectivement, démontre un changement de mentalité. C'est-à-dire que il y a 15 personnes au pays qui font partie de cette commission-là, dont une personne par province et territoire. Et le fait que je défende cette histoire-là, ce remaniement de l'histoire aussi n'est pas étranger à ma cooptation au sein de cette commission-là. La commission a décidé de prendre, j'ai envie de dire, le débat à bras le corps. Et en fait, en ce moment, il y a une révision des 2000 personnages, lieux et événements historiques pour recadrer justement et réintégrer l'histoire autochtone, l'histoire coloniale, les absences comme l'histoire afro-canadienne ou asio-canadienne. Et donc, il y a une révision de toutes ces dénominations-là, il y a une révision des textes de plaques et il y a ce désir d'y intégrer ces histoires qui étaient en marge, de les recentrer aussi pour mieux comprendre la complexité de notre passé et de regarder en fait notre passé en face et de comprendre comment la suprématie blanche a joué un rôle déterminant dans la construction du Québec et du Canada. Et je trouve ça courageux pour une institution parce que les institutions, généralement, n'aiment pas trop sauter dans le débat et la commission a décidé de le faire. Et c'est ce que je trouve admirable. On verra pour la suite, mais déjà, je trouve que c'est un travail qui doit être fait. Et elle s'est mise au diapason de ce qui se passe en histoire aujourd'hui à travers le monde.
George Floyd's story has been the story of black folks. Because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dreamed to be in is you kept your knee on our neck.
What's his name?
George Floyd!
What's his name?
George Floyd!
What's his name?
George Floyd!
Les Africains, peut-être qu'ils se disent que ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, donc ça ne vous concerne pas, c'est loin. Ce qui est faux, le privilège blanc, il existe partout, même au Sénégal, même en Afrique. Le racisme systémique n'est pas uniquement dans les pays où il y a une majorité blanche.
En 2020, après la mort de George Floyd, qui à 20 reprises avait supplié le policier qu'il maintenait au sol de respirer, l'onde de choc est mondiale. Du Sénégal, à Paris, en passant par New York, Montréal ou Bristol, le mouvement Black Lives Matter va adresser, crier l'urgence de regarder en face les violences policières et le racisme systémique. À partir de là, les notions, les mots racisme systémique, profilage racial, privilège blanc ou biais inconscient vont quitter la sphère exclusivement militante pour entrer dans une conversation globale qui désormais peut avoir lieu. Une conversation où le présent se relie à l'aune d'un passé esclavagiste et colonial qui ne passe plus, quitte à faire tomber au passage quelques statues.
On met toujours l'accent sur comment est-ce qu'on déboulonne les statues. Ça fait peur à beaucoup de gens, on parle beaucoup de révisionnisme historique. Mais est-ce qu'on a déjà vu une histoire qui n'est pas révisée? L'histoire qui n'est pas révisée se calcifie. Donc, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1970, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1910, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1830, et heureusement. Et donc, la révision historique fait partie du travail historique, c'est normal, c'est ça l'histoire. Toutefois, ce qui fait peur aux gens, c'est que tout d'un coup, on décide de parler d'une autre histoire. Il y a d'autres voix qui s'élèvent et c'est ça qui fait peur parce qu'on sort du cadre habituel de faire l'histoire finalement. Et donc, cette révision permet de mieux comprendre comment sont construits les récits nationaux et internationaux et planétaires finalement. Et je lisais une fois quelqu'un qui disait « Si lire l'histoire vous fait du bien, c'est pas l'histoire que vous lisez, c'est de la propagande. » Parce que l'histoire n'est pas belle. Il y a, bien sûr, il y a des belles choses en histoire, mais il y a des choses qui sont laides, des choses qui sont hideuses aussi, et ça fait partie de l'histoire. Et quand on se concentre que sur ce qui est beau et qu'on laisse la partie sombre, ce n'est plus de l'histoire qu'on fait. Et nos récits nationaux sont très souvent ancrés sur ce qui est beau et on a tendance à reléguer ce qui est laid aux marges. Et donc là, les marges reviennent vers le centre et disent « Eh, attendez, on est là aussi. » Et c'est ce qui fait que ben, y a des statues qui tombent, mais au-delà de faire tomber des statues, il faut en mettre d'autres. Le seul fait d'enlever des statues n'est pas suffisant. On peut enlever des statues, on peut mettre des plaques explicatives auprès d'autres statues, on peut mettre d'autres statues. Donc, il y a tellement d'avenues différentes, mais que les gens voient juste des cordes autour des coups des esclavagistes qu'on jette vers le sol. Moi, ça me convient. Cette partie-là me convient, mais il y a d'autres choses à faire aussi. Et souvent, ce sont des choses qui sont moins controversées et donc qui parfois font moins parler ou discuter dans l'espace public. C'est plus sensationnel de voir des statues tomber que de rajouter une plaque, dire oui, cette personne a un héritage mixte. Donc, rajouter la plaque, c'est moins sensationnel. Donc, forcément, il y a certains médias qui s'intéressent moins, mais qui est tout aussi important.
En même temps, ce déboulonnage des statues, qui était effectivement assez spectaculaire, qui s'est surtout signalé après tout le mouvement en réaction à la mort de George Floyd en mai 2020. En même temps, ce déboulonnage et cette tension, et puis ces voix qui se sont fait entendre dans la rue, toujours dans l'espace public, elles ont eu pour mérite de signaler quand même ce déficit. Et par exemple, à Montréal, il y a des statues. Je pense à McGill, qui a fondé l'université, était propriétaire d'esclaves. Et ça a engagé un débat sur le fait de savoir est-ce qu'en honorant cette personne, on ne devrait pas peut-être mentionner qu'il a lui-même été propriétaire d'esclaves. Mmh. Peut-être il faudrait le faire pour plein d'autres gens aussi, ici, à Montréal, dans le nom des rues.
Oh, c'est certainement... on retrouve beaucoup de toponymes. À Montréal, mais à travers le Québec aussi, lié à l'esclavage. Et pourtant, on n'a pas eu beaucoup de personnes asservies ici. Toutefois, on retrouve beaucoup de nos toponymes qui sont liés à cette histoire-là. Tout simplement parce que les gens qui pouvaient se permettre d'avoir des esclaves à l'époque étaient les gens de l'élite.
Les puissants.
Exact. Et jusqu'à récemment, c'est les gens de l'élite qu'on utilisait pour nos toponymes. Et donc, je pense qu'il faudrait effectivement les... Il y en a qu'on doit enlever. Il y en a qu'on doit nuancer. Et donc, McDonald's, je suis très à l'aise avec le fait qu'on le jette par terre. après ça, McGill, si on veut l'enlever, je suis à l'aise avec ça. Si on veut rajouter une plaque explicative, je suis à l'aise avec ça. Et donc, encore une fois, il y a plusieurs avenues à explorer pour mieux comprendre la complexité de notre histoire. Parce que l'histoire est complexe et on a... souvent voulu tourner les coins ronds pour raconter l'histoire, ce qui fait que, on a perdu beaucoup des aspérités de l'histoire, finalement.
La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Vous ne trouverez pas ce terme dans les manuels de théorie politique, qu'il soit introductif ou même avancé. On vous introduira aux notions d'aristocratie, de démocratie, d'absolutisme, de libéralisme, de gouvernement représentatif, de socialisme, de capitalisme social et de libertarianisme. Toutefois, même s'il couvre plus de 2000 ans de pensée politique occidentale et passe en revue la gamme ostensible des systèmes politiques, on ne mentionnera pas le système politique de base qui a façonné le monde au cours des quelques dernières centaines d'années. Et cette omission n'est pas accidentelle. Elle reflète plutôt le fait que les manuels et cursus scolaires conventionnels ont pour la plupart été rédigés et conçus par des blancs dont le privilège racial est tellement acquis qu'ils ne le perçoivent même pas comme politique, comme une forme de domination. Ironiquement, le système politique le plus important de l'histoire mondiale récente, le système de domination par lequel les blancs ont historiquement assujetti et à bien des égards continuent d'assujettir les personnes non blanches, n'est pas du tout considéré comme un système politique. On le tient tout simplement pour acquis. Il détermine le cadre, l'arrière-plan, à partir duquel d'autres systèmes que nous devons voir comme politiques sont mis en évidence. Le contrat racial, Charles W. Mills, 1997.
Un système qui a été bâti autour du privilège blanc fait qu'il y a bien des gens qui ne se posent pas les questions et qui sont incapables de se les poser, qui sont incapables de voir ces dynamiques-là et ainsi de les rapporter. Donc, il y a toujours chez Charles Mills la...
Que vous avez traduit.
Oui, oui, j'y reviens toujours parce qu'il m'habite. Charles Mills, le contrat racial, m'habite.
Philosophe américain.
Ouais, et... pour moi, c'est devenu une lentille d'analyse très puissante. Charles Mills fait du contrat racial quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que, dit, toute personne blanche naît avec son nom sur le contrat et ça lui appartient de l'enlever, c'est-à-dire de résister au contrat racial. Mais c'est couplé, doublé de cette ignorance-là qui rend difficile l'analyse... du contrat. Ça rend difficile de pouvoir analyser, de voir le contrat parce que le système est bâti autour du privilège blanc, autour de la suprématie blanche.
C'est ça, c'est un contrat social qui se lit finalement, ce qu'on ne dit pas, mais dans une lecture de race, en fait, qui se bâtit autour de ça.
Oui, exactement, parce qu'en fait, ce que Mills dit, c'est que les idéaux du contrat social sont des idéaux, mais ne sont pas dans la réalité. Les philosophes des Lumières ont théorisé l'égalité pour tous et non pour toutes. Donc, dans la tête des philosophes des Lumières, bien, le tous était l'homme blanc. Donc, ce que Mills dit, comment est-ce qu'on peut concilier les idées, les idéaux des Lumières avec l'esclavage transatlantique qui a lieu au même moment, avec le génocide autochtone, la dépossession territoriale autochtone des Amériques qui a lieu au même moment? Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Eh bien, c'est le contrat racial. Comme quoi, ces privilèges-là sont accordés aux personnes blanches et aux personnes, ou du moins les sous-personnes non blanches, sont des gens à qui on n'accorde pas ces privilèges-là. Donc, c'est un contrat entre blancs dont les personnes non blanches sont l'objet. Le contrat racial est un contrat d'exploitation. Le contrat qui permet l'esclavage, qui permet la colonisation, qui permet l'expropriation.
L'exploitation des ressources.
L'exploitation des ressources. Et finalement, le contrat racial établit la suprématie blanche comme on la connaît et qui permettra l'éclosion du monde moderne. Donc, le monde moderne est construit autour de ces notions-là. La notion de patriarcat aussi, si on se réfère au contrat sexuel de Carol Pateman. Et finalement, ce monde qui est construit autour de la suprématie blanche, aujourd'hui, on ne le voit pas comme tel parce que la suprématie blanche se retire finalement de la conversation. C'est-à-dire que Charles Mills sépare la suprématie blanche d'un point de vue chronologique en deux temps. La suprématie blanche du juré, donc dans les lois, où la suprématie blanche est clamée tout haut. Donc ça, c'est depuis, admettons, l'arrivée de Christophe Colomb environ jusqu'à la deuxième partie du 20e siècle, où au Canada, on a des lois migratoires racistes. On dit on veut pas que les Asiatiques émigrent ici. De 1923 à 1944, il y a une loi qui interdit l'immigration chinoise. On va empêcher les Asiatiques de voter ici, de la fin des années 1800 jusqu'en 1947. On va préférer une immigration européenne blanche. Donc, ce sont des choses qui sont perçues. La suprématie blanche est perçue comme normale.
Il y a même eu un décret qui n'a pas été appliqué, mais où...
En 1911, effectivement.
On voulait interdire toute immigration noire.
Exactement.
Au Canada.
Exact. Et ça, c'est pour le Canada, mais on peut parler de la France, on peut parler de l'Angleterre, on peut parler des États-Unis. Où est-ce que la suprématie blanche est au centre de la conversation et perçue comme normale? À partir des années peut-être 60, 70, on commence à se dire, bon, ouf, OK, non, c'est peut-être pas la bonne chose. Et c'est le moment où est-ce qu'on se dégage aussi de la théorie des races. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il n'y a pas des races, mais une race qui est humaine. Et à partir de ce moment, on commence à se dire, bah ouais, la suprématie blanche, c'est peut-être pas ça. Donc, on la retire de la conversation dans l'espace public, on tombe dans la suprématie blanche de facto. Donc, à partir peut-être des années 60, 70, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la suprématie blanche de facto, où on vit dans le privilège blanc, on vit dans une société qui a été construite autour de la suprématie blanche, mais elle s'est extirpée de la conversation. Et donc, on l'a reléguée aux marges. Le Ku Klux Klan, les skinheads, les néo-nazis. Donc, la suprématie blanche, on y trouve des boucs émissaires.
L'extrême droite, comme
l'extrême droite. Donc, on va dire, ah, ça, c'est eux. Mais on oublie que nos politiques au centre de la société, pendant longtemps, tournaient autour de cette dimension, autour de la suprématie blanche. Mais quand on l'enlève de la discussion, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que la suprématie blanche nourrit le colonialisme, a nourri l'extraction des ressources africaines vers l'Europe pendant des décennies. Mais si on enlève la suprématie blanche, qu'est-ce qui reste? Il reste l'Afrique et ses problèmes aujourd'hui, mais on ne nomme pas que la suprématie blanche a grandement contribué à ces problèmes.
Mais est-ce que ce terme, la suprématie blanche, et toutes les réalités qu'elle recouvre, est-ce que c'est audible ici, au Québec?
Non. Les gens veulent pas
entendre.
C'est un
mot qui fait peur.
Ouais, c'est un mot que
radical.
Les gens ne veulent pas entendre parler. C'est effectivement perçu comme radical, et je pense que c'est partout en Occident les gens ont peur de ce mot-là parce que justement on l'a relégué aux marges et on comprend pas comment est-ce que un mot qui jusqu'à récemment encore on associait aux néo-nazis à l'extrême droite qu'on associait au Ku Klux Klan, comment est-ce qu'on peut l'associer au centre de la société, au cœur de la société. Et donc c'est un mot qui fait encore très peur, que beaucoup de gens ont de la difficulté à prononcer et à regarder en face. Mais c'est une réalité historique qui, justement, et encore une fois, c'est ce que Charles Mill dit, c'est le tour de force de la suprématie blanche, c'est de s'être effacé de la discussion.
Dans son ouvrage Monument, Le contrat racial, Charles Mills parle alors d'une sorte d'entente pour mal interpréter le monde, écrit-il, dans un récit qu'il qualifie d'aseptisé, blanchi et amnésique. Mieux interpréter le monde et son pays, le Québec, c'est finalement ce que s'attache à faire Webster. Et pour cela, il ne cesse d'interroger le grand livre de pierre que toute nation se construit et raconte à travers ses monuments, le nom des rues, ses statues, comme dans les manuels scolaires. Tout à l'heure, en parlant des figures et des statues contestables, Webster a cité le nom de MacDonald, du nom de John MacDonald. Cet ancien Premier ministre du Canada est considéré comme un père fondateur de la Confédération canadienne. Sauf qu'il est aussi l'architecte de la politique des pensionnats autochtones. Et à l'été 2023, après de multiples concertations et pour prendre en compte le point de vue autochtone, la ville de Montréal a annoncé qu'elle ne réinstallera pas la statue de MacDonald déboulonnée, en 2020.
On fait de plus en plus ce travail concernant les populations autochtones, de mieux comprendre le colonialisme, cette colonie de peuplement, de mieux comprendre aussi l'histoire récente des pensionnats et le génocide culturel qu'ont vécu les Autochtones au Canada. Et donc, c'est important de revoir cette histoire-là pour mieux la comprendre et comprendre comment elle a un impact sur le présent. Et donc, de comprendre la vie sur les réserves autochtones, c'est intimement lié à cette histoire-là. De comprendre les quartiers défavorisés qui sont fortement racisés en milieu urbain, c'est intimement lié à cette histoire-là. C'est intimement lié à la colonisation, c'est intimement lié au racisme systémique. Quand tout au long du 20e siècle, du moins les premières décennies du 20e siècle, les personnes afro-descendantes et africaines n'avaient pas de mobilité sociale, ça a un impact aujourd'hui. C'est-à-dire que au début du 20e siècle, les Afro-Canadiens, l'un des seuls métiers qu'ils pouvaient faire, c'était porteur sur les chemins de fer. Donc les gens pouvaient pas devenir avocats, certains le sont devenus, mais quand on parle en termes de groupe et non individuellement, il n'y a pas de mobilité sociale. Les gens ne peuvent pas faire n'importe quel emploi. Donc, ils sont, pour la plupart du temps, relégués au métier de porteur et sans moyen d'ascension même au sein des compagnies ferroviaires. Et donc, même dans les années 1950, il y avait une enquête par un journal qui s'appelait L'Autorité, qui est titré « Comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des Noirs ». En autant qu'ils demeurent serreurs de bottes ou porteurs de bagages. Sur 6000 Noirs, pas un policier, pas un facteur, pas un conducteur de tramway. On est en 1953. Et donc, cette absence de mobilité sociale-là empêche le transfert intergénérationnel de richesses, c'est-à-dire d'accumuler des richesses, d'accumuler des propriétés, de les transférer à une génération et ainsi de suite, ce qui permet une ascension sociale, ce qui permet des meilleures conditions de vie. Et donc, c'est comme si pendant des décennies, même on peut parler de siècles, les gens sont toujours à se refaire une richesse, du moins de subsistance, qui ne permet pas d'être transférée parce qu'on a épuisé cette richesse-là au courant de notre vie. Ce qui fait que, finalement, il n'y a pas de transfert de propriété, il n'y a pas d'ascension pour les générations suivantes. Et donc, tout ça, c'est intimement lié à l'histoire, c'est intimement lié à la ségrégation, c'est intimement lié à ce système qu'on a construit en excluant certains pans de la population, nommément ici les personnes racisées et les personnes autochtones.
Yeah. C'est bon d'être méfiant, mais faut savoir comprendre des risques. SP, sans pression, Webster. Suis tes instincts, des fois pas choix, faut pas en se vite. Too black, too strong. Tu cours après le cash, tu marches avec l'antichrist. Yeah. On me disait ça, je venais d'avoir 18. Tu veux réussir, va peut-être falloir du triche. Faut que je garde le focus, c'est quasiment over. La fin du monde approche, panne d'essence, arrête le moteur. Le petit train va loin, j'essaie juste d'être à la hauteur. On va le faire pour nos frères et on va le faire pour nos sœurs. On était jeunes mais on a grandi, grandi. Méfie-toi s'il est trop gentil, gentil. Il est supposé d'être fier mais il t'envie. Il a dit qu'il t'aimait, mais il a menti, menti. Encore un gunshot dans l'aile, encore un patiné qui est dead. Trop de black dans le gel, y'a plus de place pour les mettre. Y'a son strap, pis il est prêt, il va braquer le dep. J'essaie de parler au frère, mais lui, il me parle juste de bread. Même si je disais non, lui, ça est tenté de le faire. Il voulait son respect, voulait faire partie de la gang. Quand ils l'ont vu tout seul, ils l'ont jack pour sa chaîne. Juste 25 ans, yo, tu me parles d'une affaire, ouais. J'suis pas parfait, mais j'essaye, car il est temps qu'on se réveille. Des blacks qui meurent everyday, quartier défavorisé. T'es là pour me motiver, ou pour me décourager. J'me sens comme Kunta Kinte, j'arrive à les boumailler. J'comprends que t'es perdu, pis t'sais pas où aller. Ils t'ont pogné dans la rue, là, t'es assis dans le champ de police. Tu penses à ta maman, tu penses à tes kids. Où t'es pané, voyez où ton équipe. J'garde le focus, c'est quasiment over. La fin du monde approche, panne d'essence, arrête le moteur. Le petit train va loin, j'essaie juste d'être à la hauteur. On va le faire pour nos frères et on va le faire pour nos sœurs. On était jeunes mais on a grandi, grandi. Méfie-toi s'il est trop gentil, gentil. Il est supposé d'être fier mais il t'envie. Il a dit qu'il t'aimait mais il a menti, menti.
Vous écoutez Si Loin, Si Proche sur RFI.
L'importance de parler d'histoire afro-québécoise, c'est que quand on parle d'histoire afro, admettons quand on parle d'esclavage, ce qui vient en tête pour la plupart des gens, c'est l'esclavage de plantation du sud des États-Unis. Donc ici, on n'a pas de plantation. Et donc, il est facile de penser que l'esclavage ne s'est passé qu'aux États-Unis. Quand on parle de militance afro, on va penser à Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, les Black Panthers, qui sont tous des exemples afro-états-uniens. On ne connaît pas notre propre afro-militance ici.
Qui s'appelle?
Ah, des gens comme les porteurs, entre autres, qui étaient des militants. Des gens comme Rocky Jones en Nouvelle-Écosse. Le congrès des écrivains noirs, ici, à McGill, en 1968. Toutes les personnes qui ont fait l'émeute de Sir George Williams
en 1969.
Je pense à Saul Reynolds et Norris Augustus Dodson, en 1919, qui vont se battre en cour contre les pratiques ségrégationnistes dans les théâtres. Je pense à Fred Christie, en 1936, qui va poursuivre la Taverne New York pour ségrégation. Des gens qui ne se voyaient peut-être pas comme des militants, mais qui l'étaient, parce qu'ils vont combattre la ségrégation, ils vont combattre la suprématie blanche devant les tribunaux. Et donc, le fait de toujours se référer à une histoire noire aux États-Unis, ou bon, Nelson Mandela, ou les classiques qu'on connaît, finalement, sans connaître ce qui s'est passé ici, crée un sentiment d'extériorité. Par rapport à cette histoire-là, ça s'est toujours passé ailleurs. Et donc, les gens ne connaissent pas cette histoire afro-locale, ce qui fait que, finalement, l'africanité, ici, est vue d'un point de vue extérieur et non comme partie intégrante de l'histoire locale.
C'est toujours étranger. C'est...
Exactement.
Alors que ça s'est passé ici.
Et c'est le travail que j'essaie de faire, d'intégrer cette histoire-là à ce que nous sommes pour comprendre la pluralité de notre passé et de mieux comprendre la pluralité, finalement, de notre présent. Parce que les gens vont penser que l'immigration est quelque chose de récent. En fait, on va voir l'immigration pigmentée comme étant récente et l'immigration blanche comme étant ancienne. Donc, c'est plus de l'immigration.
Les pionniers, les fondateurs sont blancs.
Exactement. Et tout le reste, puisque ça a été évacué de l'histoire, on le voit que comme récent et qui n'est pas ancré ici. Et donc, pour ma part, quand j'étais jeune, j'ai toujours cru que mon père était l'une des premières personnes noires à Québec. Mon père est arrivé en 1970
du Sénégal.
Et donc, je croyais que lui et ses amis, c'était dans les premiers. Et donc, j'étais loin du compte en apprenant plus tard qu'Olivier Lejeune est arrivé en 1629. Et donc, c'est une histoire que je fais, en fait, pour tout le monde, pour que tout le monde puisse mieux comprendre cet enracinement et l'impact que cet enracinement a sur notre présent.
Donc, c'est un enracinement pour tous et peut-être aussi pour toi?
Oh, certainement pour moi et pour tout le monde. Et en fait, je le fais pour moi d'abord parce que c'est mon intérêt. J'aime ça, je le lis pour moi parce que ça me fascine. Et après, ben, je le transfère aux gens. Et ça, en fait, c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que je fais ma musique. C'est-à-dire que le rap, je l'écris pour moi d'abord parce que j'aime écrire et je me rappe à moi-même. Et puis ensuite, je l'envoie aux gens. Si les gens ont envie de le recevoir, tant mieux pour vous. Et pour moi, parce que ben, j'aime que les gens puissent écouter ma musique. Mais j'ai toujours écrit pour moi d'abord. Et l'histoire, je la fais pour moi d'abord. Parce que ça me fascine, parce que ça me passionne, parce que j'aime chercher, parce que j'aime trouver, parce que j'aime lire, parce que j'aime apprendre. Et bien, par la suite, si je peux contaminer des gens avec cette passion-là, tant mieux.
C'est une bonne pandémie, ça.
Oui, exact.
Et pour finir sur la question, quand je suggérais ça sur la question de le faire pour soi, c'est que j'imagine aussi que ça a dû participer à un ancrage, à une façon de se situer, d'un point de vue identitaire aussi. Réparer ce déficit d'histoire, ça permet aussi aux jeunes générations, parce qu'on est dans un pays très multiculturel, le Canada, et ça permet aussi de s'ancrer, j'imagine.
Certainement, parce que j'ai vécu toute ma jeunesse et mon adolescence en parallèle. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je ne me voyais pas dans l'espace public. C'est-à-dire que je ne me voyais pas dans la sphère médiatico-culturelle. Moi, ma réalité en tant que jeune métisse n'était pas reflétée dans nos productions culturelles. C'est-à-dire que ce soit au théâtre, que ce soit à la télé, que ce soit en musique, que ce soit à la radio. Et en fait, j'ai envie de dire nos réalités, parce qu'on est toute une génération à ne pas se voir dans l'espace public. Mais l'arrivée du hip-hop nous a transformés, parce que tout d'un coup, on s'est vu. On a vu nos réalités traduites, ou du moins une partie de ces réalités-là, traduites dans des médiums culturels et artistiques. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens de ma génération sont tombés dans le hip-hop, soit pour l'écouter, soit pour le faire, parce que tout d'un coup, on se voyait. Et donc, cette réalité-là, en tant qu'Afro-Québécois, n'était pas reflété non plus en histoire et dans le récit historique national. Et cette manière de faire l'histoire afro-québécoise, m'a permis de mieux m'ancrer dans le Québec et de mieux comprendre ma place ici.
Donc il faut quand même encore toujours faire sa place.
Absolument. Toujours.
Enquête d'histoire noire à Montréal, c'était une série en 2 épisodes réalisée par Laure Allary et produite par moi-même. Merci à Webster, Rito Joseph, Dorothy Williams, Frank Mackay, les équipes du musée McCord Stewart, ainsi que les éditions Mémoire d'Encrier. Merci à la Sonothèque pour leurs archives et au labo RFI pour leurs moyens techniques. Merci à Anthony Rossignol-Ripper pour sa lecture. Merci enfin à Geneviève Archambault et son équipe pour leur accueil. Auditeurs voyageurs, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir les initiatives, visites guidées, livres ou balades sur les traces de l'histoire noire au Canada et au Québec, on vous a mis sur notre site rfi.fr beaucoup de références. Cette série a été réalisée grâce au concours de Visite Montréal et Air Transat. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages, si loin, si proches.